Alors, aujourd'hui, je suis venue sans PowerPoint. Je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas trouvé. Je pense que c'est le plan du Seigneur, puisque le Seigneur est souverain. Donc, je ne suis pas stressée. Heureusement, j'ai mes notes avec moi. Donc, vous êtes privés de plan d'aujourd'hui. Je suis désolée. Peut-être le Seigneur veut que vous soyez adaptés aussi par moment, parce que d'habitude, on a toujours les plans et tout ça. Mais bon, j'ai tout préparé, mais bon. Le Seigneur veut montrer par là que je suis pas toujours parfaite aussi, hein. Parce que je crois que je n'oublie rien, mais aujourd'hui, la preuve, j'ai oublié ce qui est le plus important. Alors, vous allez dire que, il y a quelque temps, Renato a déjà prêché Daniel 12, mais c'est une question de, la personne qui donne des textes, donc du coup, je me sens obligée quand même de vous terminer Daniel tout entier. Donc ça tombe bien parce que la dernière fois, il y a un mois, je vous ai parlé du Daniel 11, du chapitre des versets 1 au 20. Vous vous souvenez un peu avec tous les noms. Alors les rois du sud, c'est les rois de l'Égypte. Ça commence toujours avec un Ptolémée. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on arrive au 6 et 7. Et Cléopâtre, c'est le 1 et le 2 aujourd'hui, c'est les deux femmes. Et les rois du nord, c'est les rois de la Syrie, c'est Antiochus. Et aujourd'hui, simplement, c'est Antiochus 4, c'est que lui. Voilà. Alors, juste avant de commencer sur le passage, le livre de Daniel, il faut s'en souvenir que vraiment c'est Daniel qui est à la déportation à Babylone. Donc là, à l'époque, peut-être 10 ans ou 15 ans après que Daniel est déporté, après la troisième vague de déportation, Jérusalem est en ruine. Le temple est en ruine. Le peuple a perdu son pays, leur temple et tout. Donc pour eux, à vue d'homme, c'est vraiment tout est foutu. Où est la promesse de Dieu? Dieu leur a promis la venue d'un Messie pour sauver le peuple et tout. Et là, ça a l'air vraiment tout en l'air. Et c'est pour ça que Dieu a vraiment révélé à Daniel d'écrire ce livre. Je pense que ce livre est tout d'abord, Dieu veut parler au peuple Israël de l'époque, dans les 586-560 avant Jésus-Christ, pour leur dire que tout cela leur arrive à cause de leur révolte contre Dieu, à cause de leur violation de l'alliance avec Dieu. Ils n'ont pas adoré Dieu de tout leur cœur, ils ont adoré Dieu superficiellement et en même temps, ils ont adoré les autres idoles. Et justement, il faut leur dire que les prophéties, nous avons vu ensemble la plupart des prophéties sur les choses historiques qui se produisent dans les proches à venir et d'autres dans les lointains à venir. Tout ça pour dire à ce peuple d'Israël que malgré qu'ils sont loin de leur pays, loin de leur temple, Dieu est toujours avec eux. Puisque Daniel, il est à Babylone, il sert l'empereur païen, mais dans son cœur, il a Dieu et Dieu est avec lui. Donc, c'est vraiment tout le thème principal de ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est ce thème-là qui court partout dans ce livre de Daniel. C'est Dieu est souverain. Rien ne se produit sans sa permission. Tout ce qui nous arrive dans tous les détails de notre vie, c'est vraiment avec Dieu le sait. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour leur dire que un jour, puisque Daniel nous a vu avant, Daniel a lu le livre de Jérémie, ils savent que Dieu leur a dit 70 ans finis, ils vont être retournés dans Jérusalem et restaurés et adorer l'Éternel. Voilà. Donc Dieu, dans le livre de Daniel, leur donne l'espérance. Il faut toujours qu'ils continuent à faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu fié à un endroit. Ce n'est pas parce que le temple de Jérusalem est détruit que Dieu n'est pas là. Dieu est là où son peuple l'adore. Et je pense que c'est aussi pareil pour nous, le peuple Israël nouveau de notre époque, avec tout ce qui arrive dans le monde en ce moment, on va dire le monde va mal, mais notre Dieu est toujours là, il tient, maîtrise toutes choses. Il nous a promis ce qui est révélé à Jean dans Apocalypse, c'est ça va arriver. Voilà, donc là maintenant je vais vous partager, je sépare en trois paragraphes. Le premier, c'est du verset 21 jusqu'à verset 39. Là, je vous décris un peu ce qu'il a fait le roi du Nord, Antiochus Épiphane. C'est le persécuteur d'Israël. Alors, quand vous vous souvenez un peu sur la dernière fois, quand on a fini verset 20, c'est le roi de la Syrie, Antiochus III. Il faisait la guerre contre les Romains, les Roms, et l'a perdu à Magnésie en 190 avant Jésus-Christ. Et là, il a dû signer un traité, et pour ça, comme il a perdu la guerre, il a cédé des villes à Rome et aussi payé des amendes qui est causée par la guerre. Et en plus de ça, il doit laisser quelqu'un de royal en otage à Rome. Et là, il a laissé son frère, qui est Antiochus IV, en otage à Rome pendant 14 ans. Mais on ne sait pas pourquoi, dans l'histoire qu'il raconte, peu de temps après son assassinat par son ministre, Héliodore, il a changé l'otage. Il a envoyé son propre fils, Démétrius, à la place de son frère. Du coup, le frère, dans ce roi-là, et puis Antiochus IV, il est libéré. Donc, il est reparti sur la Syrie, et entre-temps, il s'est attardé à Athènes. Et il aime bien vraiment la culture grecque de Athènes. Donc, maintenant, on revient à chapitre, verset 21. Donc, quand le roi Antiochus III, le frère Antiochus IV, est assassiné, le ministre qu'il a assassiné a mis le plus jeune fils sur le trône. Finalement, c'est le ministre qui va diriger le trône. Mais, manque de chance pour lui, Antiochus arrive. Du coup, le ministre, il s'est enfui. Alors, cet oncle, pareil, il fait exprès de mettre le neveu sur le trône. Mais très peu de temps après, il a fait assassiner ce neveu. Et c'est lui-même qui est monté sur le trône. C'est pour ça que vous avez lu, la Bible dit, c'est parce qu'il est arrivé au trône de façon illégale, avec des méthodes violentes. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un homme méprisable. Voilà. Une fois ce roi au pouvoir, comme tous les tyrans, il va éliminer tous les adversaires, tous ses ennemis. Et là, il a gagné aussi sur le roi de l'Égypte. Et quand vous voyez, il parlait un chef du peuple de l'Alliance. Il s'agit du grand prêtre en Israël, à Jérusalem, le grand prêtre Onias III. En fait, ce grand prêtre, il est attaché à Dieu, il respecte tous les lois et tout, mais ça ne plaît pas à Antiochus IV. Donc, il a choisi plutôt le frère de ce grand prêtre, qui s'appelle Ménélas, qui choisit de renier la foi en Dieu, et ce frère-là a assassiné le prêtre Onias. Et il est, du coup, quand son frère est assassiné, il est promu grand prêtre par Antiochus IV. Donc, toutes les personnes qui suivent ce prêtre apostat, ils sont vraiment superficiellement de face, ils adorent l'Éternel, mais c'est vraiment le contraire. Après, vous avez vu, ils font alliance encore. Ils font alliance. Alors, maintenant, on arrive, Antiochus IV fait alliance avec le roi d'Égypte. On arrive au Ptolémée 6. En fait, c'est à l'époque, vous montez un plus haut, à l'époque, c'est le roi de la Syrie qui donne sa fille, Cléopâtre, pour se marier avec le roi d'Égypte. Vous vous souvenez un peu pour qu'il pensait qu'il utilise sa fille comme agent double pour faire ruiner l'Égypte, mais sa fille aimait son mari, il a fait capoter le plan de son père. Voilà. Donc maintenant, c'est le fils. Alors, dans Antiochus 4, fait alliance avec Ptolémée 6. C'est son neveu, c'est le fils de sa sœur. En fait, les deux-là, ils savent chacun, ils connaissent chacun. Hein. Le neveu, il sait très bien que l'oncle n'est pas un gentleman. Donc, chacun tire son ficelle. Donc, Antiochus IV pense gagner l'influence sur l'Égypte grâce à cette alliance. Et c'est vrai que avec l'alliance, il a quand même conquis l'Égypte. Et il est arrivé jusqu'à Memphis. Memphis, c'est presque au nord de l'Égypte. Et sous couvert de l'amitié, toujours, il pille les villes. Ici, quand on dit les plus riches de région, c'est les villes les plus riches d'Égypte. Il pille surtout dans les temples. Qu'est-ce qu'il y a dans les temples, d'après vous? Oui, l'or et l'argent. Donc lui, il pille tout l'or pour remplir la caisse de son trésor qui est vide, puisqu'il doit payer des amendes à Rome. Et maintenant, sa caisse est remplie. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa caisse? Il va distribuer ses trésors, ses richesses, pour racheter les gens, pour le supporter. Donc, voilà. Il gagne les supporters par l'argent, par leur donner des pouvoirs. Et ceux qui le refusent, c'est quick. C'est clair. C'est la même méthode que tous les tyrans de ce monde utilisent, n'est-ce pas? Ça. Et c'est aussi la tactique de Satan. Il nous tente, il nous séduit. Si ça marche pas, la persécution ou la mort. C'est la même chose. C'est l'ennemi de Dieu. Alors, après. Le roi du Midi, quand on arrive au roi du Midi, ici vous lisez une fois qu'il se... Ouais. Après. Oui, alors... Non, attends, je peux pas avoir le... Oui, la tête d'une grande armée. 25 et 26. Donc maintenant, on est dans le verset 25. Oui, là, il va de nouveau. Oui, il va conquérir le. On arrive à 27. Voilà, les deux rois ici. Il s'agit de Antiochus IV. Le roi du Nord et le roi de l'Égypte, Ptolémée VI. Ils font semblant parce que, quand je vous ai dit, quand Antiochus IV a vaincu, il a fait la guerre contre, malgré l'alliance, il a fait quand même la guerre contre le roi de l'Égypte. Il a fait prisonnier le Ptolémée VI. Et après, et entre-temps, quand le roi d'Égypte, Ptolémée VI, a été détrôné par lui, comme Antiochus a attaqué jusqu'à Memphis seulement, il a mis le roi de l'Égypte sur Memphis comme roi d'Égypte. En ce temps-là, les Égyptiens ont mis le frère de Ptolémée VII, comme roi à Alexandrie. Du coup, il y a deux rois en Égypte. Alors, Antiochus IV, il fait semblant de supporter le roi qu'il a pris prisonnier pour pouvoir encore en profiter pour ruiner l'Égypte. Ils pensaient que les deux frères rois vont faire guerre, la guerre contre eux, entre eux. À ça, en son avantage. Mais ça ne va pas comme il a prévu. Il n'a pas réussi parce que les deux frères ont suivi le conseil de leur sœur, qui est Cléopâtre II. Donc, du coup, ils se sont réconciliés ensemble. Ils ont même préparé pour contre-attaquer Antiochus IV. Vous voyez, maintenant, son projet n'est pas toujours... Ça ne marche pas comme il veut. Du coup, verset 28. Il n'a pas réussi à ruiner l'Égypte. Et en même temps, on a vu déjà avec son frère Antiochus III, Rome ne veut pas qu'il y ait de la guerre. Rome veut qu'il lui impose de faire la paix avec l'Égypte. Comme il a été otage à Rome, il sait que Rome est plus puissant que lui, donc il a obéi, mais de mauvaise gré. Donc il est furieux, il est très fâché, donc il retourne en Syrie. Et vous savez que la Syrie est dans le nord, l'Égypte est dans le sud, et entre-temps, entre les deux, il y a Israël. D'accord? Donc, quand les rois font la guerre, ils passent toujours par Israël. Donc, Israël subit toujours les conséquences de la guerre, quoi. Donc là, il retourne en Syrie, il passe par Israël. Et qu'est-ce qu'il a appris? Il y a une révolte des Juifs contre le prêtre qu'il a mis en place. Donc, ça lui permet une occasion d'aller défouler sa colère sur le peuple de Dieu. Donc, il est entré dans Jérusalem, il autorise ses soldats à massacrer ses opposants, bien sûr, à violer, à tuer les femmes. Donc là, j'ai vu dans l'histoire, il y a eu 800 000 morts, 40 000 prisonniers et 40 000 vendus en esclaves. Et là, il a même... voilà, il a réussi, cette fois-ci, il a réussi à mater vraiment les opposants de Mélénas. En fait, c'est le prêtre qui est pro ce roi impie. Dans le verset 29, quand il marche de nouveau sur le sud, quand il a appris la nouvelle que les deux rois frères d'Égypte se sont réconciliés entre eux, il n'est pas content, du coup, il va faire la guerre contre eux encore, malgré l'avertissement de Rome. Vous voyez, c'est le 29 là. Et 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette fois-ci, ça va pas comme il veut. Des bateaux qui viennent de l'ouest, en fait, qui viennent de Chypre, c'est une armée romain qui est conduit par un général. Qu'est-ce que je suis encore? Par le général romain qui s'appelle Popillus. Les Romains sont venus aider les Égyptiens. Du coup, Antiochus n'a pas gagner la bataille. Et cette fois-ci, vraiment, le général romain lui a dit, vraiment, tu retournes dans ton pays et calme-toi. Et cette fois-ci, imaginez-vous, lui qui aime bien faire la guerre et il aime bien gagner. Et deux fois de suite, ça, c'est la deuxième fois, il est vaincu. Donc là, il est fou furieux. Vous voyez, ici, c'est marqué même. Voilà. Il est très furieux. Là, il cherche vraiment à défouler sa colère sur quelqu'un. Verset 30, là. Voilà. Agira contre l'Alliance sainte. 32 aussi. Voilà. Alors, donc, c'est pareil. Cette fois-ci, il est vraiment... En fait, les Juifs ne sont pas pour lui parce qu'il est en train de faire une politique de hellénisation du pays, pour que les gens parlent grec, vraiment de la culture grecque pour les juifs. Donc ceux qui, et puis ils répriment la religion juive aussi. Donc tous les prêtres, tous les juifs fidèles à Dieu ne suivent pas le mouvement de l'autre prêtre. C'est pour ça qu'ils se défoulent sur ces juifs-là. Donc vous voyez, c'est ici quand il dit que voilà, donc de nouveau, c'est la deuxième fois que le peuple juif est persécuté. Ici, c'est encore pire, parce que il va jusqu'à empêcher la célébration des cultes, empêcher les sacrifices quotidiens. Vous savez que dans le temple, ils doivent offrir un sacrifice, un agneau le matin, un agneau le soir, pour demander pardon pour la purification du péché. Et là, il a vraiment interdit toute la célébration de ce système sacrificiel. Et en plus, il permet à ses soldats de profaner le temple. Ils vont jusqu'à sacrifier un porc sur l'autel. Vous imaginez, le porc, c'est un animal impur aux yeux de Dieu, dont... Et ils ont érigé une statue de Zeus dans le temple. C'est ça que les Juifs parlent, abomination de la désolation. Là, il en a fait trop. Par rapport à tous les rois païens qui ont envahi Jérusalem, c'est lui, Antiochus Épiphane, qui a fait tout ça. Voilà. Pour Daniel et comme pour Jésus, cette profanation, cette atrocité préfigure en fait les prochaines abominations à venir. Il y aura d'autres. En fait, Antiochus IV, c'est, on peut dire, un type des antichrists. C'est l'ennemi premier de Dieu. Ils s'acharnent à persécuter le peuple de Dieu. C'est pour ça, pour le verset 36 et verset 39, là, je vous donne le portrait de ce roi impie, ce roi païen. Dans ma version à moi, il s'élève au-dessus de tout le monde, il se glorifie au-dessus des autres dieux. En fait, pour lui, il ne croit pas, il ne s'incline pas devant aucun idole de ses ancêtres, ni ne suit les idoles de ses femmes, des femmes. Vous voyez? Il se proclame, pour lui, son Dieu à lui, c'est le Dieu de forteresse. D'après vous, c'est quoi? C'est qui? Le Dieu de forteresse, ça veut dire, c'est le Dieu de la guerre. En fait, lui, son Dieu à lui, c'est Zeus. Il veut toujours faire la guerre, abolir, attaquer les forteresses. C'est pour ça que il a construit, il se présente lui-même comme la personne de Zeus sur la terre. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tout. Et il va, justement, il a construit un temple dédié à Zeus. Et oui, ici, ils disent que offrir de l'or et de l'argent, verset 38. C'est le Dieu des forteresses qui honorera sur son piédestal à ce Dieu que ne connaissaient pas ses ancêtres. Il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de valeur. C'est à Zeus qu'il donne tout ça. Et donc, il n'adore aucun des autres dieux des autres peuples, ni le Dieu d'Israël. En fait, il a cherché à persécuter, à tuer le peuple d'Israël. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas compris. Il a interrompu le sacrifice quotidien. Il n'a rien compris à ce système de sacrificiel que Dieu a instauré au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu a instauré ce système sacrificiel pour le peuple d'Israël de l'époque? En fait, Dieu est saint et le peuple, comme tous les hommes, sont pécheurs. Un Dieu saint ne peut pas demeurer parmi le peuple pécheur. C'est Dieu qui leur a donné ce moyen pour permettre temporairement que Dieu demeure parmi eux. Donc, tous les jours, il doit, dans Hébreu, vous soumet, il s'est dit, s'il n'y a pas de sang coulé, il n'y a pas de pardon du péché. Donc, en fait, Dieu permet que, en attendant l'arrivée de Jésus-Christ, qui va purifier nos péchés par son sang, par sa vie, Dieu permet, c'est une ombre à venir, une ombre pour ce qui est à venir, que par tuer, parce qu'à chaque fois qu'il amène un agneau dans le temple, la personne met sa main sur la tête de l'agneau. C'est-à-dire, je mets mon péché sur l'agneau. On va tuer l'agneau, l'agneau est mort à ma place. C'est déjà la substitution. Donc, en fait, c'est ce système que Dieu a permis au peuple Israël de recevoir, de se repentir à travers la mort de l'animal, par le sang de l'animal. Dieu les accepte leur repentance et pardonne les péchés. Mais comme la Bible nous dit dans Hébreu, comme les animaux ne sont pas saints, en fait, il a besoin tous les jours et une fois par an, il y a le jour de Yom Kippour, c'est pareil. C'est un jour que Dieu proclame le pardon de tout le peuple. Et le grand prêtre qui doit officier ce pardon, il doit lui-même purifier. Tout cela, ce n'est que l'ombre à venir pour nous dire que le vrai pardon du péché, une fois pour toutes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, lui qui est saint, sans péché. C'est pour cela qu'une fois, ça suffit. Sa mort, son sang, nous purifie de nos péchés. Donc, quand nous pensons à ça, c'est vraiment que Dieu est vraiment un Dieu. La révélation de Dieu, c'est vraiment progressif. Et les rois, les ennemis de Christ, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas, ils pensent pouvoir tuer le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu, on est encore là. Mais ce roi-là, il est déjà mort, Antiochus. Alors, la fin de Antiochus. En fait, le verset 40 à 45, on peut le lire de deux façons. Une façon, ce sont les actes finaux au trajet de ce roi impie. Il a continué à faire la guerre et il y a une grande bataille entre lui et le roi du sud encore. Mais pendant qu'il est en train de vaincre le roi du sud, il y a des nouvelles d'invasion des autres pays qui viennent de l'est et du sud. Et donc là, il est obligé de se retirer pour aller faire face à d'autres. Et puis après, verset 45, il a dressé son poste de commandement entre la mer Méditerranée et la mer Morte et la montagne de Jérusalem. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Puis il arrivait à sa fin. Il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. Donc, il est mort. En fait, il a régné que pendant 11 ans, hein, avec toute la terreur, tout ce qu'il a fait, mais 11 ans. C'est pas longtemps, heureusement. C'est pour ça, la Bible nous dit toujours, pendant un certain moment fixé, c'est Dieu qui fixe tout ça. C'est Dieu qui permet ça. Sa fin arrive. Voilà, donc... si vous voulez, en fait, dans Daniel, si vous voulez voir, c'était dans Daniel 7, versets 7 à 8, je vous donnerai la prochaine fois, si vous voulez, qui parlait de ce roi-là. Dans Daniel 7 et dans Daniel 8, ils ont déjà parlé de ce roi-là. Quand ils parlaient de la corne, qui parle avec arrogance, qui profane les choses, voilà. Mais tout ça, c'est pas important, mais c'est deuxième façon de voir ces ces versets, c'est vraiment, c'est un portrait des autres antichrists, des ennemis de Dieu, vraiment, qui vont apparaître au fil des siècles. Moi, je pense à Hitler. Hein, il a massacré, ouais, les Juifs, mais il est mort maintenant. Mais le peuple de Dieu est toujours là. Le peuple de Dieu n'est jamais exterminé par quiconque, par quel roi. Voilà, Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de ceux qui le révèrent. Donc, ici, selon ce que dit la Bible, c'est que le antichrist va venir du nord. Est-ce que c'est vraiment ça, d'après ce que là ils disent? Voilà, donc c'est vraiment... Ce qui est plus important, c'est vraiment... Nous avons vu ce roi, Antiochus IV, il se nomme Épiphane. En fait, Anne-Marie, tu m'aides, Épiphane, c'est la... Oui, c'est ça, il se prend vraiment... oui, il se prend au-dessus de tout, il se prend d'être la personne de Dieu sur la terre, vous voyez. Mais il a vécu que 11 ans. Donc, c'est un peu, quoi, pour quelqu'un qui est... Ah oui, dans sa mort, dans l'histoire, ils ont raconté, en fait, il est mort il est mort de façon en 164 avant Jésus-Christ en Perse, subitement, par une maladie mystérieuse, un peu comme Alexandre le Grand. Il y a des rumeurs qui disent que s'est peut-être suicidé. Alors ça, c'est en dehors de... mais il y a une bonne nouvelle, c'est que vous connaissez un peu le... Oui, en fait, comme Antiochus a vraiment profané le temple et tout ça, du coup, il y a des hommes vraiment fidèles à Dieu qui font partie d'un clan qui s'appelle Maccabée. Ils ont mené une révolte juste un an avant la mort de Antiochus, 165 avant Jésus-Christ. Et cette fois-ci, Dieu les a aidés. Ils ont vaincu. Ils ont vraiment purifié. Ils ont tué tous les supporters de Antiochus IV. Ils ont purifié le temple, tout, et ils ont régné pendant presque 100 ans. De 165 avant Jésus-Christ jusqu'à 63 avant Jésus-Christ. Là, Israël a retrouvé l'indépendance avec le culte et le sacrifice, tout ça. Donc, Dieu a quand même laissé un moment à ses peuples fidèles de lui rendre culte. Vous voyez, tout est entre la main du Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment pour... je pense que là, laisser vraiment voir qu'ils ne sont pas toujours persécutés. Voilà, nous arrivons à la conclusion. Alors, en fait, pour la fin des antichrists, je veux partager avec vous dans Apocalypse, chapitre 20, verset 7 à verset 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, avant de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont les bêtes, la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà ce que Dieu a révélé à Daniel. Là, il a de nouveau révélé à Jean. Donc ça veut dire que la fin de ces antéchrists, c'est certain. Vous voyez, ils sont nombreux, hein. Ici, la Bible nous dit, mais il n'y a pas besoin de bataille, il n'y a pas besoin de combat. Un feu descend du ciel, ils sont mis KO. Donc, notre Dieu est souverain. Il réduira à néant ses ennemis au temps fixé par eux. Voilà, donc vous voyez, maintenant on a fini le livre de Daniel. J'espère que ça vous avez un peu suivi entre les Antiochus et les Ptolémées, ça va? C'est un peu clair quand vous lisez ça? J'ai dû lire 3-4 fois pour vous le partager, parce que avant c'était voilà. En tout cas, l'important c'est pas la vie de ce roi. L'important c'est que tout ce qui se passe, ces rois qui sont contre Dieu, les rois païens, pourquoi ils sont là? C'est Dieu qui a permis. Et la Bible dit aussi, il a permis à ses fidèles d'être mis à mort pour purifier, pour fortifier, pour c'est la même chose pour nous maintenant, pour ces chrétiens qui vivent dans la Corée du Nord, dans certains pays, dans la plupart des pays musulmans, dans les pays bouddhistes, tout ça, ça continue. Voilà, donc vraiment, nous voyons que l'Antiochus, il meurt. Tous les antichrists meurent. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là-haut, éternel. Il est mort, mais ressuscité. Et maintenant, à la droite de Dieu. Alléluia. Donc, vraiment, c'est... Voilà. Donc, depuis des siècles et des siècles, tous les tyrans... Vous avez en tête quelques noms des tyrans encore? Il y en a beaucoup. Je pensais aussi en Chine, Mao Zedong. Il se prend pour un roi. Il a le petit livre rouge que les enfants doivent réciter. Comme si c'est la Bible, mais il est mort. Il est mort. Donc, il n'est pas Dieu. Et puis Pol Pot, hein? Bon là, c'est pareil. Ils sont pas éternels. Alors notre Dieu est éternel. Voilà. Donc un jour, notre Dieu revient et il règne. Et j'ai trouvé. Le roi David, il a vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Vous allez chercher un chronique avec moi. C'est super. Je vous encourage de retenir par cœur. Moi, j'ai retenu par cœur, donc je vous encourage. Un chronique, chapitre, tant que je trouve, 29, verset 10. Verset 12. Vous trouvez là? On va lire ensemble. Oui, c'est bon? David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Quand j'ai préparé ce texte, et après je suis en train de lire Ancien Testament, je suis tombée sur Chronique. Oh, j'ai dit, c'est vraiment ce que David il a compris, hein. Dieu est souverain. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, c'est à lui. Donc vraiment, notre Dieu est tout puissant. Il n'y a pas meilleur que lui. Donc vraiment, que nous vivons vraiment une vie qui prouve notre foi en lui, glorifiant notre Dieu et vraiment rendant gloire à lui par notre parole, par nos actes et notre conduite. Et surtout, n'oubliez pas, prendre du temps chaque jour avec notre Seigneur. Si nous l'aimons, quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec la personne. plus nous passons du temps avec notre Père qui est au ciel, plus il sera content et nous serons bénis. Je vous invite à prier. Notre Père bien-aimé, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as révélé à Daniel. Tu nous as montré par là que tu es le Dieu omniscient, omnipuissant, et vraiment, tu connais tout, rien ne t'échappe, tu maîtrises tout, tu es au-dessus de tout être. Père, nous te demandons pardon, souvent on se croit fort, on se croit tout savoir, mais nous sommes tellement limités, et notre finitude par rapport à ton éternité, c'est vraiment, Père, voilà, donne-nous vraiment un cœur obéissant, un cœur reconnaissant et un cœur qui repent aussi quand nous t'offensons pour que nous puissions vraiment vivre sous ton regard, faire ce qui te plaît pour vraiment te rendre gloire et servir nos prochains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.